Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance.
Hey, you know what?
Diffusés tous les jours, du lundi au vendredi, les nouveaux chemins sont réalisés cette semaine par François Connac avec John Fredericks à la technique et préparés par Geneviève Méric, Mathilde Unger, Géraldine Mosna-Savoie, Julien Tricard et Adèle Van Rett. Adèle qui vous donne rendez-vous comme tous les jours à 10h50, tout à l'heure pour le journal des Nouveaux Chemins où elle parlera d'euthanasie en compagnie de Bernard-Marie Dupont. Allez, suite et fin pour nous ce vendredi d'une semaine consacrée à la guerre. Une semaine que nous avons passée, tel le premier livre de la République de Platon, à nous interroger sur la stratégie, le statut de la ruse, la guerre civile, voire les Pompéi de l'avenir, avant de nous poser la question la plus difficile et donc la plus nécessaire, à savoir, qu'est-ce qu'une guerre juste ? Pour y répondre, ou ne pas le faire, mais à tout le moins fouiller une telle question, les Nouveaux Chemins se réjouissent d'accueillir deux excellents philosophes. Monique Cantos-Perber d'abord, directrice de l'École normale supérieure et productrice, pour le meilleur, de questions d'éthique sur France Culture. Auteur enfin, entre autres, d'un excellent ouvrage sur la guerre juste intitulé « L'idée de guerre juste » est disponible aux presses universitaires de France. Et le philosophe Michael Walzer, comme on dit chez nous, auteur de « Guerres justes et injustes », disponible désormais en folio-essai, héroïquement en duplex avec nous de New York, et dont les propos seront traduits en temps réel par le camarade Michel Zlotowski.
Plusieurs écrivains, entraînés par l'amour de l'humanité dans de louables exagérations, n'ont envisagé la guerre que sous ses côtés funestes. Je reconnais volontiers ces avantages. Il n'est pas vrai que la guerre soit toujours un mal. À de certaines époques de l'espèce humaine, elle est dans la nature de l'homme. Elle favorise alors le développement de ses plus belles et de ses plus grandes facultés. Elle lui ouvre un trésor de précieuses jouissances. Elle le forme à la grandeur d'âme, à l'adresse, au sang-froid, au courage, au mépris de la mort, sans lequel il ne peut jamais se répondre qu'il ne commettra pas toutes les lâchetés et bientôt tous les crimes. La guerre lui enseigne des dévouements héroïques et lui fait contracter des amitiés sublimes. Elle l'unit de liens plus étroits, d'une part à sa patrie et de l'autre à ses compagnons d'armes. Elle fait succéder à de nobles entreprises, de nobles loisirs. Mais tous ces avantages de la guerre tiennent à une condition indispensable. C'est qu'elle soit le résultat naturel de la situation et de l'esprit national des peuples.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter.
Bonjour Monique Cantos-Perber.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue sur Les Nouveaux Chemins. Bonjour Michael Walzer.
Hello.
Et bienvenue en un sens sur Les Nouveaux Chemins de la Connaissance sur France Culture, où vous êtes depuis New York, donc avec nous. La tentation était grande au début de cette émission, d'une émission qui porte sur l'oxymore de guerre juste, reste à savoir si c'est véritablement une contradiction, d'opposer un texte de Benjamin Constant, extrait de ses écrits politiques, au tout début d'ailleurs de ses écrits politiques, un chapitre intitulé « Des vertus compatibles avec la guerre à certaines époques de l'État social », et la chanson de Boris Vian, la très fameuse chanson en France de Boris Vian, « Le déserteur », ce qui permet d'opposer à l'hypothèse d'une guerre juste, ou en tout cas dont les effets le sont, la revendication de la justice pour justifier la désertion. Monique Cantos-Perber, de quel côté se trouve la justice et sommes-nous ici en présence d'un débat frontal ?
Débat frontal, assurément. L'idée qu'il y a une justice de la guerre est une idée paradoxale. D'ailleurs, certains ont remarqué qu'en fait, de guerre juste, prenons l'expression anglaise en hommage à notre ami Michael Roser, Just War, eh bien, on n'avait que Just War, seulement la guerre, juste la guerre. L'idée d'une guerre juste, eh bien, repose sur l'idée qu'il peut exister une éthique de la violence, peut exister la possibilité de faire jouer des contraintes, des limites, des règles, des normes qui permettent un usage acceptable de la guerre.
Alors, en anglais, il y a just war et il y a righteous war, c'est-à-dire qui permet de distinguer une guerre substantiellement juste ou formellement juste. Michael Walzer, sur cette question.
I'm not quite sure what the issue is at the moment.
Je ne suis pas sûr de savoir quel est le problème.
The decision to go to war,
la décision de débuter une guerre est toujours une décision qu'il faut faire vraiment avec beaucoup d'attention et à regret. Et il faut que ce soit une nécessité politique et morale. La justice en temps de guerre, l'idée de juste en raison des horreurs de la guerre, est toujours véritablement en danger, cette idée.
Ainsi, Michael Walzer, vous défendez l'idée qu'on doit pouvoir juger la guerre. Vous vous servez même pour cela, d'ailleurs, de Thucydide. Vous refusez d'abandonner le langage de la morale, tout en précisant d'ailleurs que la morale n'est pas un énoncé lointain, abstrait, normatif, hors du réel. La guerre, selon vous, est toujours soumise à un double jugement sur les raisons d'entrer en guerre et sur la façon dont la guerre a été menée. Au fond, c'est le droit de faire la guerre et ce qu'il reste du droit dans la guerre elle-même.
Exactement, ce sont des décisions cruciales à faire. Elles sont indépendantes l'une de l'autre. Lorsqu'une guerre est menée par autodéfense, par exemple, les Finlandais contre les Russes en 1939, ou les Polonais contre les Allemands,
la justesse de la guerre
me semble aussi évidente que la décision de se défendre soi-même dans une rue, par exemple, si on est attaqué. Mais à l'évidence, c'est une version extrêmement simpliste de nombreux cas qui sont beaucoup plus compliqués. Lorsque la guerre n'implique pas l'autodéfense, mais la défense des autres, de manière où les autres sont en danger, les questions d'intervention humanitaire aussi, qui impliquent des débats extrêmement complexes sur la proportionnalité. Est-ce qu'on va sauver plus de gens que l'on va en tuer? Est-ce qu'on va tuer plus de gens que l'on va en sauver?
Alors, on va justement, Michael Walzer, rester sur ces questions à la faveur d'un extrait de cette série géniale, West Wing en l'occurrence, une série qui se passe dans la Maison Blanche et qui raconte le mandat, le double mandat d'un président américain. Ici, un avion américain a été descendu par le ministère de la Défense syrien. Et le Pentagone prévoit à cet égard une riposte proportionnelle qui consiste à viser 3 cibles. Et le président américain s'interroge à ce moment-là sur la vertu d'une telle proportionnalité, une proportionnalité finalement attendue, une sorte de proportionnalité fidèle à la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, qu'il compare en anglais à la confiscation de l'argent de poche. Écoutez cet extrait.
Good morning, Mr. President. What do we got?
3 retaliatory strike scenarios.
When are they operational?
At the president's command.
No prep time.
We're there.
All 3 scenarios are comprehensive, meet the obligations of proportional response, and pose minimum risk to American personnel and assets. Scenario 1, or Pericles 1, to use its code name, sir.
What is the virtue of a proportional response?
I'm sorry?
What is the virtue of a proportional response? Why is it good? They hit an airplane, so we hit a transmitter, right? That's a proportional response.
Sir, in the case of Pericles...
They hit a barracks, we hit 2 transmitters.
That's roughly it, yes, sir.
This is what we do. I mean, this is what we do.
Yes, sir. It's what we do. It's what we've always done.
Well, if it's what we do, if it's what we've always done, don't they know we're going to do it?
Sir, if you turn your attention to Pericles 1.
I have turned my attention to Pericles 1. It's two ammo dumps, an abandoned railroad bridge, and a Syrian intelligence agency.
Those are four highly rated targets, sir.
But they know we're going to do that. They know we're going to do that. Those areas have been abandoned for 3 days now. We know that from the satellite, right? We have the intelligence.
Sir.
They did that, so we did this. It's the cost of doing business. It's been factored in, right?
Mr. President.
Am I right, or am I missing something here?
No, sir. You're right, sir.
Then I ask again, what is the virtue of a proportional response?
It isn't virtuous, Mr. President. It's all there is, sir.
It is not all there is.
Sir, Admiral Fitzwallace.
Excuse me, Leo. Pardon me, Mr. President. Just what else is there?
The disproportional response. Let the word ring forth from this time and this place, gentlemen. You kill an American, any American, we don't come back with a proportional response. We come back with total disaster.
Et voilà. Quelle est la vertu d'une réponse proportionnelle, se demande le président Bartlett. Hein? Quels sont les effets d'une réponse à laquelle tout le monde s'attend? Non, il faut répondre de façon démesurée pour bien montrer à ceux qui nous agressent qu'ils ont tort de le faire. Monique Cantos-Perber, on est ici de plein pied dans la problématique justement de la guerre juste et des injustices éventuelles qu'elle implique.
On est au cœur de la question, car ce critère de la proportionnalité qui a sans doute été le plus discuté parmi les critères de la guerre juste, non qu'il soit remis en cause, en dépit de ce que montre cet extrait de West Wing, mais parce que son sens est difficile à définir, d'une certaine manière, concentre la nécessité de limitation intrinsèque à l'usage de la violence. L'idée de guerre juste dépend de l'hypothèse que la guerre est un mal. Et c'est sans doute la raison pour laquelle elle est particulièrement liée à la tradition chrétienne ou judéo-chrétienne. Dans l'Antiquité ou chez Thucydide, le problème ne se posait pas tout à fait en ces termes, comme Benjamin Constant le remarque fort, fort justement. Mais la guerre est toujours un dernier recours. C'est un mal, et un mal qu'il faut chercher à éviter par tous les moyens. Simplement, lorsque l'on est réduit à recourir à ce mal, eh bien, il existe la possibilité d'un jugement en termes de meilleur et de plus mauvais. C'est-à-dire qu'il y a une meilleure façon de faire la guerre, une meilleure façon en quelque sorte de se plonger dans ce mal, et il y a aussi une plus mauvaise. Alors vous avez rappelé la distinction entre les deux ensembles de critères de la guerre juste, ceux qui donnent des raisons de faire la guerre et ceux qui donnent des moyens de faire la guerre. Mais dans ces deux critères et aussi dans ces deux ensembles, aussi difficiles qu'ils soient à définir, on retrouve la même idée. Ce qui va permettre de penser la justice de la guerre, c'est-à-dire dans des circonstances extrêmes, la possibilité d'une justification de la violence a trait à un ensemble de limitations, de discriminations, à un travail des contraintes, dont le critère de proportionnalité, au fond, est la concentration même.
Mais oui, parce qu'à partir de ce critère se pose, Michael Walzer, la question de savoir si on peut évaluer la justice en fonction des conséquences d'un acte. Si au fond les conséquences d'une réplique disproportionnée de la Maison-Blanche face à l'agression dont les États-Unis sont ici victimes, si l'on évalue la justice d'une réponse aux conséquences de cette réplique, alors il peut être en un sens juste d'élaborer une réplique disproportionnée à l'attaque dont ils ont fait l'objet.
Yes, I don't think President Bartlett was talking about a
je ne pense pas que le président Bartlett parlait d'une répartie disproportionnée
a family feud in Tennessee.
Qui parlait d'un refus dans le Tennessee où une famille tue deux personnes et donc l'autre famille doit tuer deux autres personnes de la famille opposée. Non, ce n'est pas ça la proportionnalité de la guerre. La proportionnalité, c'est une façon de regarder vers l'avant et non pas de regarder vers l'arrière. Le débat porte sur le fait que est-ce que ces morts civiles sont proportionnées ou disproportionnées par rapport à la valeur de l'atteinte de l'objectif? Et ce que le président Bartlett est en train de dire, c'est que l'objectif militaire pour les attaques à venir valait-il la peine de faire ces pertes civiles ou militaires? Et lui-même, dans cet épisode, aurait mis des limites sur ce nombre de pertes.
Monique Cantos-Perber.
La question des pertes civiles lors d'un conflit est une question véritablement décisive qui est au cœur de la guerre juste. Il est en effet difficile d'imaginer une intervention militaire qui n'entraîne pas des morts non voulues, non intentionnelles de civils. Le critère de la proportionnalité est tout à fait important pour mesurer ce qui est permissible ou non permissible dans le domaine, étant donné que la mort de civils est toujours un mal, mais dans certains cas, elle est considérée comme inévitable. Un autre critère est absolument essentiel, c'est celui de l'intentionnalité. Car il y a des morts civiles qui sont réellement non voulues et qui sont des effets extrêmement malheureux d'actions de guerre. Il y en a d'autres, en revanche, qui entrent dans une stratégie de guerre. Un exemple qui est couramment donné à ce sujet est celui qui distingue entre les bombardements alliés au début de la Seconde Guerre mondiale, lorsque l'Angleterre était en quelque sorte totalement coincée, n'avait d'autre possibilité de rétorsion que des bombardements sur les populations civiles des pays qui l'agressaient, par opposition au bombardement systématique des villes allemandes à la fin de la guerre, où là, viser les civils, comme ça a été d'ailleurs le cas avec le bombardement de Tokyo, était un clair moyen de démoraliser la population et donc d'avancer des buts de guerre, de réaliser des buts de guerre. Dans un cas, on peut considérer qu'il y a des morts non intentionnelles. Dans d'autres cas, la mort des civils, même si les civils ne sont pas en tant que tels le but de l'acte meurtrier, la mort des civils est considérée comme un moyen pour la promotion des buts de guerre.
Alors, comme le dit Michael Watzer tout à l'heure, le calcul des conséquences est une façon de regarder devant nous et non pas derrière nous. Mais si l'on énumère, et je m'inspire pour cela de votre livre, Monique Cantos-Perber, six préceptes du droit de la guerre, ou en tout cas de ce qu'on appelle une guerre juste, six conditions ou six critères d'une guerre juste, il y aurait d'une part une cause juste, défendre un territoire, se défendre contre une attaque, défendre un pays allié ou prévenir un drame humanitaire. La justice ou la justesse de la décision d'entrer en guerre dépend également de la décision d'une autorité qui en elle-même doit être légitime, reconnue institutionnellement, élue démocratiquement. La décision d'entrer en guerre doit également apparaître comme le dernier recours, naturellement, pour aboutir à cette fin. Elle doit avoir une chance raisonnable de succès, et cette fois-ci, on entre dans le calcul des conséquences. Autre élément du calcul des conséquences, les bienfaits doivent être supérieurs aux maux occasionnés. Mais surtout, et c'est ici le critère sur lequel je voudrais qu'on s'interroge ensemble, avec vous Michael Walzer et avec vous Monique Cantos-Perber, le critère de la bonté de l'intention, l'intention de faire le bien. Comment établir un tel critère sans qu'un tel critère soit immédiatement problématique, Michael Walzer?
Je crois que l'intention arrive dans la conduite de la guerre de façon importante. Nous supposons qu'un pays qui se défend contre un autre le fait pour se défendre, et l'intention est celle-là. Mais dans la planification de la stratégie des tactiques d'une campagne militaire, il faut prendre en compte les risques que vous imposez aux populations civiles de façon non intentionnelle, le risque des dommages collatéraux. Et j'ai dit et débattu que s'il n'y avait pas de justification suffisante pour les dommages collatéraux, à condition que ce soit non intentionnel, ce que nous demandons, nous exigeons de nos soldats et de nos chefs planifiant les campagnes, c'est que l'intention ne soit pas de tuer des civils. Pas simplement de ne pas avoir l'intention de les tuer, mais d'avoir l'intention de ne pas les tuer. Et cette intention implique des actions positives et peut impliquer aussi d'imposer des risques sur vos propres soldats pour réduire le risque de prendre des vies innocentes.
Mais en même temps, Michael Walzer, c'est un risque qu'on ne peut que réduire. C'est un risque qu'on ne peut pas supprimer, qu'on ne peut pas abolir, en particulier d'ailleurs quand l'adversaire fabrique des boucliers humains. C'est un risque qu'il n'est pas possible de supprimer complètement. Dans quelle mesure le calcul du bien ou d'une certaine idée du bien justifie, je mets ici le mot entre guillemets après vous avoir entendu, des dommages collatéraux? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, on s'attarde beaucoup sur les victimes civiles dans une guerre, mais au fond, en quoi la vie d'un civil vaudrait-elle davantage que celle d'un militaire? Est-ce qu'il ne faudrait pas, paradoxalement, en poursuivant cette logique, conduire une guerre dans l'espoir de ne faire aucune victime, même parmi les militaires eux-mêmes?
Oui,
si on pouvait faire une guerre sans victimes, oui, on serait très heureux de le faire. Je pense que la distinction entre combattants et non-combattants, entre soldats et civils, est d'une certaine manière artificielle, conventionnelle, mais elle a des raisons. En plus des raisons principales, fondamentales, c'est la meilleure manière de limiter le côté destructeur de la guerre. Mais il y a une autre raison pour cette distinction entre les soldats et les civils. Les soldats sont armés, entraînés, ils se protègent les uns les autres, les civils ne sont pas armés, ne sont pas formés, infiniment vulnérables. Ils ne sont pas engagés dans la guerre, alors que les soldats sont complètement engagés dans les affaires de la guerre, dans la conduite de la guerre. Il y a donc une distinction morale, même s'il y a beaucoup de zones grises, de zones d'ombre. Quand on pense, par exemple, à des civils qui sont actifs dans le soutien de l'effort de guerre, par exemple. Mais fondamentalement, sans cette distinction, on ne peut pas imposer de limites effectives sur la conduite de la guerre.
Monique Cantos-Pervert.
Là, nous avons un cas caractéristique d'une justification, d'une imitation, discrimination entre les civils et les combattants, qui est tout à fait importante moralement, mais qui trouve dans certains cas de grandes difficultés à s'appliquer. C'est-à-dire, on a les distinctions, mais on ne sait pas qui exactement mettre parmi les civils ou les combattants. D'abord, comme Michael vient de le rappeler, certaines guerres, et sans doute les guerres les plus meurtrières, se font de telle manière que tous les civils sont inévitablement combattants, soit qu'il se soit une guerre de partisans, soit que les civils apportent par la force des choses, parce qu'ils y sont contraints ou ils le souhaitent, un support logistique extrêmement important aux soldats. Et par ailleurs, que fait-on des soldats une fois qu'ils ne représentent plus un danger, lorsqu'ils sont désarmés et lorsqu'ils sont prisonniers? La question des civils et des combattants est une question qui montre de manière très claire que des distinctions sont nécessaires et moralement justifiées, mais que la manière dont ces distinctions sont tracées est particulièrement difficile. Et cela vaut, je crois, pour tous les critères de la guerre juste. Vous les avez énoncés, Raphaël Rothoven, dans une magnifique transparence et clarté des distinctions, mais lorsqu'on se penche sur chacun d'eux, ils sont plongés dans une situation de précarité, d'incertitude, de défaut de connaissance qui rend très difficile leur application. Qu'est-ce qu'une autorité légitime? Qu'est-ce qu'un succès? À quel espace temporel le mesure-t-on? À 2 ans? À 10 ans? À 20 ans? Qu'est-ce que la proportionnalité? Nous en avons parlé tout à l'heure. Tout cela fait que, inévitablement, il devient de plus en plus difficile, me semble-t-il, de distinguer aussi rigoureusement que nous l'avons dit au début de cette émission entre les critères des justes raisons de commencer une guerre et les critères qui permettent de faire le tri entre les moyens justes et injustes de conduire cette guerre.
En d'autres termes, à la difficulté d'évaluer la justice ou la justesse d'une guerre, je ne sais jamais si guerre juste en français désigne justice ou justesse, je pense que ça doit être difficile à traduire, à la difficulté d'évaluer la justice ou la justesse d'une guerre a priori, s'ajoute la difficulté de savoir au fond quand cette guerre s'achève.
Quand cette guerre s'achève et comment fait-on la distinction entre la justice lorsqu'elle a trait aux causes et la justice lorsqu'elle a trait aux moyens? Imaginez la guerre la plus juste qui soit, avec une cause non contestée, par exemple la légitime défense, si on peut imaginer que c'est une cause de ce type, mais une guerre qui est menée de manière sale, avec des moyens inadmissibles. Est-ce que la manière dont la guerre est conduite n'a pas un effet rétroactif, d'une certaine manière, sur les raisons mêmes d'entrer en guerre? Les deux ensembles de critères qu'on présente traditionnellement comme rigoureusement distincts, en fait, réagissent les uns sur les autres.
Alors, Michael Walzer, est-ce que cette alternative ou le dilemme que présente ici Monique Cantos-Perber, cette alternative entre la justice ou la justesse des motifs et la bassesse des moyens mis en œuvre pour y parvenir, est-ce que cette alternative, ce dilemme plus exactement, ne se posait pas avec une extrême acuité au moment de la guerre du Vietnam ? On peut d'ailleurs s'interroger sur la justice ou la justesse de l'intervention américaine au Vietnam. Néanmoins, si l'on part cas d'école de l'idée que cette intervention était entre guillemets juste a priori, est-ce que la nature des moyens mis en œuvre ne suffisait pas ? Je m'adresse à vous à dessein, puisque je sais que vous avez milité contre cette guerre. Est-ce que la nature des moyens mis en œuvre ne discrédite pas tout simplement les principes au nom desquels la guerre en question est menée ?
Je pensais que la guerre était injuste.
Depuis l'énoncé de ces principes,
mais il y a eu un débat que c'était un combat juste contre le communisme. Et là, elle est devenue injuste, cette guerre, lorsque nous avons découvert que nous n'étions pas en guerre seulement contre des insurgés communistes. Nous étions en guerre contre la société rurale du Vietnam. Les soldats américains avaient une capacité réduite pour faire la distinction entre les civils et les combattants. Nous étions face à une population que nous percevions comme entièrement, totalement hostile. Et à ce point-là, nous avons perdu ce que j'appelle la bataille pour les cœurs et les esprits. Et toute continuation de la guerre était injuste, quel que soit l'état du début de la guerre.
Restons dans cet univers, justement, de guerre froide. Cette fois-ci, c'est un univers plus fantasmatique. C'est un extrait du Docteur Follamour, hein, Docteur Strangelove, le film de Kubrick de 1964. Un extrait dans lequel, d'ailleurs, c'est très intéressant, un général donne des consignes stratégiques, encourage ses troupes, en partant du principe que les communistes n'ont aucun respect de la vie humaine et qu'à cet égard, quand on voit arriver quelqu'un qui est susceptible d'être un communiste, eh bien, il faut l'abattre dans le doute. Déclaration en elle-même, évidemment fantoche, et contradictoire. Écoutez.
Les communistes n'ont aucun respect de la vie humaine, pas même de la leur. Et c'est pour cette raison que je tiens à vous faire comprendre la nécessité d'une extrême vigilance. Les ennemis peuvent venir
un à un, ou ils peuvent venir en force. Ils peuvent même prendre l'uniforme de notre armée.
Mais sous quelque forme qu'ils se présentent, nous l'arrêterons. Nous devons l'empêcher de pénétrer dans la base. Donc, je vais vous donner trois consignes simples. Primo, ne vous fiez à aucun individu, quel que soit son uniforme et son grade, à moins que vous ne le connaissiez personnellement. Secondo,
si une personne quelconque approche à moins de 200 mètres du périmètre, vous ouvrirez le feu. Tertio,
en cas de doute, tirez d'abord et posez des questions ensuite. Je préfère risquer quelques pertes d'hommes par accident plutôt que la destruction de la base et de tout le personnel par négligence. Toute modification à ces instructions ne devra être décidée que par moi. En conclusion, je voudrais vous dire que pendant les 2 ans où j'ai eu l'honneur d'être votre chef, je vous ai toujours demandé de donner le meilleur de vous-même. Et vous ne me l'avez jamais refusé. Aujourd'hui, la nation tout entière compte sur nous et nous ne la laisserons pas tomber. Bonne chance à tous!
Ça boum sur boum sublime. Des plombes que ça tombe, un monde immonde s'abîme.
Rock around the bunker. Rock around, rock around. Rock around the bunker. Rock around, rock around. Rock around the bunker. Rock around, rock around.
Les philosophes Monique Cantos-Perber et Michael Walzer sont les invités des Nouveaux Chemins de la Connaissance. Ce vendredi, à l'issue d'une semaine sur la guerre, c'est de guerre juste, si j'ose dire, que nous parlons aujourd'hui.
Tombe les temples, exemple sublime.
Rock around the bunker.
Monique Cantos-Perber, que vous inspire l'extrait qu'on a entendu du docteur Folamour de tout à l'heure? Tirez d'abord et posez vos questions ensuite, bon, ça c'est hilarant, mais surtout les communistes n'ont aucun respect de la vie humaine, donc tuez-les, et même si ce ne sont pas des communistes, il vaut mieux une erreur plutôt que laisser entrer un rouge dans la place.
Eh bien, cela indique très clairement une des questions essentielles qui se posent à l'égard de la guerre juste. Quand prononce-t-on la justice de la guerre? C'est-à-dire, quand est-on en mesure de dire que cette guerre, la guerre qui a été menée, a été juste?
On pourrait radicaliser cette question et se demander si à l'instant où l'on parle de bien, on n'est pas déjà dans l'abus de langage, dans une déclaration abusive.
Mais on peut même se demander s'il y a un moment où l'on puisse dire que la guerre a été une guerre juste. Il est évidemment toujours facile d'imaginer qu'on délibère sur la justice de la guerre avant de la commencer. Mais c'est une vue de l'esprit. Le plus souvent, la question n'a de pertinence qu'une fois que la guerre est achevée, et bien achevée, qu'on a suffisamment de recul pour apprécier ce que furent les conséquences, et pas simplement les conséquences immédiates, les conséquences à long terme, qui sont toujours extrêmement surprenantes. Reprenons l'exemple de la guerre du Vietnam que Michael a commenté tout à l'heure. McNamara, dans l'entretien de In the Fog of War, rappelle que, en effet, comme Michael le disait, la guerre du Vietnam a commencé apparemment avec une assez juste cause, lutter contre l'emprise communiste. Simplement, au fur et à mesure qu'on la faisait, on s'est rendu compte que l'ennemi n'était pas du tout celui-là, c'était pas le communiste, c'était le peuple. Simplement, pour le savoir, il fallait faire la guerre. La décision a été prise dans une obscurité, une situation de limitation d'informations radicales, et les seules informations pertinentes n'étaient accessibles qu'une fois la guerre engagée. Donc, comment prononce-t-on la justice de la guerre? Et à partir de quel recul historique, de quel enseignement, surtout aujourd'hui, où l'on sait qu'il ne suffit pas, après une guerre, de se retirer, en laissant le pays dans la difficile situation de se reconstruire tout seul, mais qu'il faut nécessairement contribuer d'une certaine manière à une reconstruction nationale, que celle-ci peut avoir des conséquences tout à fait malheureuses lorsqu'elle est induite de l'extérieur, que lorsqu'elle est laissée à l'initiative des habitants eux-mêmes, elle peut prendre beaucoup de temps, passer par des mouvements radicaux et extrémistes. Tout cela rend la situation dans laquelle on évalue la justice de la guerre extrêmement précaire et difficile à fixer.
Michael Walzer, je voudrais avoir votre sentiment à cet égard, sur un exemple resté fameux en France, qui est la figure cardinale de Raymond Aron. Raymond Aron part en Allemagne comme lecteur, envoyé par l'école normale supérieure, comme lecteur à Cologne, à Berlin, au début des années 30. Il assiste là-bas aux premiers autos d'affaires, il rentre à Paris, s'adressant au sous-secrétaire à la guerre, je ne sais plus, Joseph Paganon, il lui fait un tableau assez exhaustif de ce qui se passe en Allemagne, et Paganon lui dit « Mais alors, que feriez-vous à ma place ?» Et Aron se retrouve pour la seule fois de sa vie démuni, incapable de répondre. Ensuite, Aron dira qu'il faut absolument s'armer, se préparer à la guerre contre l'Allemagne, voire conduire une guerre préventive contre l'Allemagne. C'est le même homme qui expliquera ensuite, dans Paix et guerre entre les nations, 30 ans plus tard, que si la France avait attaqué l'Allemagne en 1933, on aurait considéré, à juste titre, entre guillemets, comme une attaque illégitime, une telle guerre préventive. Et enfin, c'est le même homme qui, justifiant la guerre au nom de la paix, refusant le pacifisme au nom du fait justement que le pacifisme ou les effets du pacifisme sont parfois plus dangereux ou délétères qu'une guerre menée de façon préventive, c'est le même homme qui pourtant, quand il est reçu à l'Académie des sciences morales et politiques, je crois en 64, je le dis ici de mémoire, fait graver sur son épée une phrase d'Hérodote qui dit « Nul homme n'est assez fou pour préférer la guerre à la paix ». Michael Walzer, que vous inspire le parcours, la trajectoire de cet homme qui, devançant les catastrophes, plaide en faveur d'une guerre, qu'il continue 30 ans plus tard de tenir malgré tout pour un mal supérieur à tous les éventuels bienfaits qu'elle suscite en matière notamment de guerre préventive?
La guerre est un mal, mais parfois c'est un mal nécessaire. Et l'exemple que vous venez de donner de la condition européenne des années 30, c'est un exemple extrêmement important, parce qu'une guerre préventive en 1933 aurait été préventive véritablement. Mais cette décision de se réarmer face à une Allemagne qui se réarmait elle-même aurait pu permettre d'éviter, par exemple, la reprise de la Sarre, le réarmement de la Sarre. Ça aurait évité la Seconde Guerre mondiale.
Et
la discussion ne porte pas sur l'effet préventif, mais sur la préparation sérieuse à se battre, qui n'existait pas en Europe, en France ou ailleurs dans les années 30.
En même temps, Michael Walzer, la situation telle que nous la connaissons aujourd'hui justifie ce que vous dites. Mais le monde possible est donc inexistant dans lequel nous attaquons préventivement l'Allemagne, la France attaque préventivement l'Allemagne, est un monde qui précisément n'existe pas, dont on ne peut pas évaluer les conséquences ni les déflagrations possibles. Monique Kantosperber, est-ce qu'un tel argument en même temps n'est pas réversible et ne justifie pas des guerres préventives au nom d'un danger qui, lui, serait imaginaire et qu'en tout cas l'histoire ne ratifie pas?
La France aurait pu attaquer l'Allemagne en 1933 et ça aurait été qualifié de guerre d'agression inadmissible, c'est-à-dire une guerre sans aucune justice, même si, évidemment, dans la perspective d'un entendement divin qui dispose de tous les autres scénarios possibles, elle aurait été jugée comme ayant permis d'éviter un mal affreux. Simplement, si l'on pense qu'il n'y a pas d'autre histoire que celle qui se déroule, en effet, si l'on accepte que il pouvait être justifié à ce moment-là d'attaquer l'Allemagne, il ne faut pas ignorer que ce serait une guerre d'agression, et il ne faut pas ignorer non plus les conséquences dramatiques que ça aurait pu entraîner, y compris en termes de réveil extrême du nationalisme. Et toutes les guerres préventives ne suffisent pas à écarter un danger.
Michael Walzer.
Je suis d'accord. Il y a une distinction importante entre les guerres préventives et les frappes préventives. Une guerre préventive est une guerre qui est luttée, qui est menée contre un danger qui peut ou peut ne pas se réaliser. Mais est-il possible qu'une nouvelle alliance, un réarmement, aurait pu s'occuper de ce danger ou réduire à néant ce danger? Une frappe préventive, par exemple comme dans le cas d'Israël en 1967, contre les Égyptiens, et je crois que la plupart des gens croient qu'il y avait effectivement, on était sur le point d'avoir une attaque meurtrière, difficile, égyptienne contre Israël. Et donc que cela réduit à néant cette frappe égyptienne.
Monique Kantosperber.
Oui, mais là, les Égyptiens étaient sur le point d'attaquer. C'était une question d'heure, simplement. Ce qui n'était pas du tout le cas en 1933 par rapport aux perspectives bellicistes de l'Allemagne. Elle n'aurait pas attaqué avant plusieurs années, de toute façon.
Michael Walzer.
Non, je ne justifie pas une attaque préventive en 1933. Non, je justifiais un réarmement, une préparation sérieuse en 1933. En vue d'une guerre, si vous voulez, se montrer prêt à se battre dans cette situation de crise, oui, ça aurait fait la différence.
Mais ça, c'est une distinction extrêmement importante et très précieuse. C'est qu'en effet, considérer que la guerre est possible et que c'est même une probabilité très grande conduit à employer, à adopter des comportements, en particulier des comportements de réarmement, qui ont un effet dissuasif et qui, dans une certaine mesure, sont le seul moyen d'éviter de recourir à la guerre. C'est un paradoxe, mais il y en a beaucoup dans cette matière. Prendre la guerre au sérieux et se préparer à la guerre est un bon moyen de contrôler le rapport de force, sauf, et éventuellement de la différer.
Sauf, Monique Cantos-Sperber, quand un tel réarmement n'est lui-même que l'effet de la décision préalable et a priori, de toute façon, de conduire la guerre, comme c'était le cas au moment de la deuxième guerre du Golfe. On a d'ailleurs à cet effet, Michael Walzer, Monique Cantos-Sperber, débattu en 2003 sur la question de savoir si l'on avait tout fait pour éviter cette guerre. Est-ce que ça n'était pas tout simplement un faux débat? On a vu que parmi les critères d'une guerre juste, il y avait le fait que la guerre devait apparaître comme le dernier recours. Mais est-ce que l'hypothèse même d'un dernier recours n'était pas totalement caduque à partir du moment où l'état-major américain avait décidé de raconter au monde que se trouvaient là-bas des armes de destruction massive? Monique Cantos-Sperber, Michael Walzer.
Qui peut croire que la guerre de 2003 a été un dernier recours? L'Irak ne présentait aucune menace immédiate, et même la présence d'armes de destruction massive en Irak ne représentait pas non plus une menace immédiate. Une menace réelle, une menace lointaine, la possibilité pour des groupes terroristes de s'alimenter avec ces armes, même dans cette hypothèse que les informations ultérieures que nous avons eues a totalement réfutée, il n'y avait pas de menace immédiate. La guerre de 2003 était inspirée par un autre motif, qui était un motif lié à un certain nombre de valeurs que l'administration américaine voulait promouvoir.
Mais au fond, la question se pose de savoir, imaginons un monde dans lequel la guerre en Irak était effectivement menée au nom des motifs qui ont été invoqués pour la conduire en 2003. La justice, le danger que représentait Saddam Hussein, le danger soi-disant nucléaire que représentait le régime de Saddam Hussein, la justice, la victoire ou l'extension de la démocratie, bref, que les motifs invoqués soient véritablement les motifs qui justifiaient donc l'intervention américaine. Est-ce que même dans un tel cas de figure, imaginons que l'administration américaine n'ait aucune idée derrière la tête, n'ait aucun calcul d'intérêt dans cette démarche, est-ce qu'on pourrait, dans ces conditions, parler de guerre juste? Il me semble que non. Michael Walzer.
Non, je ne pense pas.
Je ne pense pas, parce qu'on était déjà engagé dans l'utilisation de la force, le pas d'avant la guerre. C'était le régime de restriction, l'embargo, la zone de non-survol, le système d'inspection qui avait été imposé aux Irakiens après la première guerre du Golfe. Et ce régime de restriction était une réussite. Et c'est la raison pour laquelle la décision de lancer la guerre a été mauvaise. Le ministre français des Affaires étrangères aux Nations Unies en 2003 a dit que la guerre n'était pas le dernier ressort, mais que l'utilisation de la force était le dernier ressort. Et c'était faux, parce qu'on utilisait déjà la force à ce moment-là. Il n'y aurait pas eu de Kurdistan autonome, il n'y aurait pas eu de zone de non-survol. Mais on utilisait de la force pendant 10 ans déjà. On bombardait des installations radar. Nous étions engagés dans l'utilisation de la force, un degré en dessous de la guerre. Mais c'était justifié et cela rendait la guerre non nécessaire.
Monique Cantos-Sperber.
La question est de savoir si pour faire le bien, on peut faire la guerre. Et évidemment non. D'abord, l'idée de faire le bien et de maximiser le bien dans le monde est une idée des plus dangereuses. On le constate en maintes occasions, surtout lorsque la violence est utilisée pour réaliser cette ambition. Et d'autre part, ces guerres, qui en effet sont des guerres inspirées par les valeurs, incontestablement, et qui, à ce titre, présentent une apparence de moralité qui les fait considérer comme les guerres justes d'aujourd'hui. Les guerres d'agression ont à peu près disparu. Ce qui reste, ce sont des guerres inspirées par des valeurs, ce qu'on pourrait appeler des guerres à prétention morale. Mais je voudrais insister sur le fait que ces guerres à prétention morale ne sont pas des guerres justes. Elles peuvent l'être par accident, mais par nature, elles ne sont absolument pas des guerres justes.
Vous consacrez dans votre livre un chapitre sur les dangers des guerres morales, justement, à cet égard.
Car elles présentent plusieurs caractéristiques qui les distinguent radicalement des guerres justes. Ce sont des guerres qui ont tendance à être illimitées dans l'usage de leurs moyens, car qui veut faire le bien ne recule pas devant les moyens. Il y a quelque chose de paradoxal à se limiter à faire le bien, quand on a décidé de partir en guerre pour le faire. Ce sont des guerres qui se justifient constamment. Ce sont des guerres qui n'arrivent pas à s'achever parce que ce n'est jamais assez bien. Le résultat obtenu n'est jamais assez bon. Ce sont des guerres qui comportent en elles un danger d'illimitation qui est une des formes majeures, je crois, des menaces contemporaines, des menaces entièrement nourries des bonnes intentions. Et je crois que s'il y a encore une pertinence à la notion de guerre juste et au rappel de l'exigence d'une justice de la guerre, c'est bien aussi pour essayer de limiter autant que possible tous les abus qui sont inévitables dans l'usage de la violence, mais c'est aussi pour limiter et réfuter radicalement les prétentions de ces guerres morales.
Et dans le même temps, Michael Walzer, on s'approche du terme de cette émission. Dans quelle mesure peut-on, tout en prenant acte des dangers que constitue le fait de conduire la guerre, enfin du danger que constitue le fait de déclarer une guerre au nom de la justice, comment peut-on ne pas faire la guerre quand on est en présence d'une injustice manifeste? Comment peut-on ne pas intervenir, même réfuter toute forme de droit d'ingérence quand on a sous les yeux quasiment, et aujourd'hui avec les moyens de communication, nous les avons sous les yeux, quand on a sous les yeux le spectacle d'abus inqualifiables comme il peut y en y avoir au Rwanda ou ailleurs. Comment, dans ces conditions, en abandonnant le critère de guerre juste, ne pas tout simplement verser dans une sorte de non-action qui, au nom d'une tolérance totale et peut-être abusive, à ce moment-là, laisserait passer. Michael Walzer.
Monique parlait des croisades. Les croisades religieuses, ce ne sont pas des guerres justes. Les théologiens du XVIe siècle ont distingué les guerres justes des croisades, mais faire cesser un massacre au Rwanda, ce n'est pas une croisade. C'est un acte de sauvetage humanitaire, une intervention humanitaire.
Est-ce qu'on peut parler de guerre juste ici ?
L'utilisation de la force dans d'autres circonstances est entièrement justifié dans ces cas-là. Par exemple, l'invasion vietnamienne au Cambodge pour arrêter les massacres des Khmers rouges, menés par les Khmers rouges, oui, c'est juste. La libération du Bangladesh d'un terrorisme d'État, oui, c'était une guerre juste. L'intervention tanzanienne en Ouganda pour renverser le régime d'Idi Amin, oui, ce sont à mes yeux des guerres justes. Et toutes ces guerres ont été menées avec des armées relativement restreintes et peu de destruction. Et des forces bien inférieures aux forces américaines et celles de l'OTAN. Je crois que il faut défendre les interventions humanitaires quand elles sont moralement nécessaires et quand elles sont menées à temps. Elle n'implique pas de destruction énorme. Le responsable des forces des Nations Unies au Rwanda a dit quelques centaines de personnes. Il a dit « je peux arrêter les massacres », mais le Conseil de sécurité ne l'a pas permis.
Il s'agit là de limiter le mal, de remédier à un mal, et pas d'imposer un bien. C'est toute la différence.
Voilà, on finit cette émission avec la musique de Platoon, un adagio magnifique, qui clôt un film qui ne l'est pas moins, qui clôt également une semaine sur une note mélancolique et les dilemmes posés par Monique Cantos-Perber et Michael Walzer, nos invités du jour. dont je rappelle ici deux ouvrages, Michael Walzer, Guerres justes et injustes, c'est en folio essai, Monique Cantos-Perber, L'idée de guerre juste, éthique et philosophie morale, c'est aux presses universitaires de France, deux livres tout à fait nécessaires pour réfléchir sur un sujet, sur un problème aussi insoluble que celui-là. À l'issue également de cet entretien, tous mes remerciements vont à Michel Zlotowski pour sa traduction, impeccable comme toujours, et à Geneviève Méric, sans qui, je vous en épargne les détails, chers auditeurs, mais sachez-le, sans qui cette émission n'aurait tout simplement pas pu avoir lieu. Allez, on passe aux choses sérieuses. Journal des Nouveaux Chemins, tout de suite avec Adèle Van Rett. Bonjour Adèle.
Bonjour Raphaël. Oui, la question de la guerre juste ou injuste, vous venez de le voir, pose le problème de l'objectivité d'un tel jugement, puisqu'une cause peut être jugée juste à l'échelle collective alors qu'elle est vécue comme injuste à l'échelle individuelle. Et ce problème d'échelle, du passage de l'individuel au collectif, est au centre de toutes les réflexions éthiques. Et on va le retrouver à propos du livre dont on parle aujourd'hui, intitulé « D'un prétendu droit de mourir par humanité, l'euthanasie en question ». Bonjour Bernard-Marie Dupont.
Bonjour.
Vous êtes médecin spécialiste de soins palliatifs et parallèlement à votre activité de soignant, vous êtes également enseignant en philosophie. Et cette double formation de médecin et de philosophe donne à votre livre une dimension très intéressante puisque cela vous permet d'aborder un thème aussi délicat et polémique que l'euthanasie sans tomber dans les écueils politiques ou religieux habituels. Votre livre s'appelle donc « D'un prétendu droit de mourir par humanité, l'euthanasie en question ». On trouve ça chez François Bourin, éditeur. Et le but de ce livre, vous l'expliquez très clairement dès le départ, est de montrer qu'il est possible de s'opposer, pour des raisons valides et appuyées sur un argumentaire philosophique, de s'opposer donc à la légalisation de l'euthanasie en actualisant et transposant la controverse qui a opposé Kant et Benjamin Constant en 1797 au sujet d'un prétendu droit de mentir par humanité. Pardon, Marie Dupont.
Alors, je crois que vous avez posé le problème dans les termes qui conviennent, c'est-à-dire que vous posez la question de l'articulation entre le singulier et le pluriel, qui est pour moi en médecine une question centrale. Et je crois que là, il faudrait être naïf d'une manière générale pour penser qu'une loi, quelle qu'elle soit, règle les problèmes en médecine. Or, je crois que c'était bien la question qui était à l'ordre du jour, à savoir peut-on, doit-on, est-il possible, permis d'imaginer une loi qui légalise, c'est-à-dire qui généralise la possibilité d'une euthanasie de l'euthanasie en médecine. Or, il me semble que cette question ne peut s'aborder sous cet angle. Et ce que j'avais remarqué en tant que médecin, c'est qu'il y avait un décalage entre ce que nous vivons en tant que soignants et ce que les gens imaginent de l'extérieur du soin. Alors, moi, j'ai essayé de trouver un argumentaire qui résistait au clivage classique droite-gauche, progressiste-conservateur, bien-pensant contre tout ce que vous voulez. Je me suis souvenu qu'en faisant cours de philosophie, il y avait ce petit texte de Kant et surtout la controverse qu'il avait opposée à ce jeune Benjamin Constant en 1797. Or, quel était le sujet de cette controverse? Évidemment, le rigorisme prétendu, à mon sens, de la morale kantienne trouvait déjà un écho favorable dans la pensée de Benjamin Constant, qui à la proposition d'une certaine lecture de la morale kantienne ou que Kant proposait, répondit au maître « Voilà, c'est bien beau votre morale qui est extrêmement claire, nette, précise, qui s'applique dans tous les cas de figure. Sauf que moi, il me semble que cette morale n'accepte pas, et c'est son point faible, de possibles ou de nécessaires exceptions. Donc si, par exemple, un innocent est poursuivi par une bande de voyous qui veulent le pendre au écourt, maître, si cet innocent se réfugie chez vous, vous affirmez donc, au nom de la morale, que puisqu'il n'est, par exemple, jamais permis de mentir, c'est ce que disait Kant
voilà,
au nom...
Voilà, il faut rappeler ça, voilà. C'est ce que Kant dit, il dit que le mensonge n'est jamais, à aucun prix, autorisé.
Ne sera jamais moral, en tout
voilà,
cas.
Il ne sera jamais moral.
Il dit donc à Kant, puisque maître, vous dites que jamais, en aucune circonstance, il ne sera possible de mentir, vous préférez, pour rester moral, livrer un innocent aux mains d'une bande d'assassins qui vont le pendre au écourt. Et moi, il me semble que si l'argument semble imparable en apparence, il est faux. C'est-à-dire que je suis convaincu, et je pense que le problème pourrait s'adapter ou se transposer, c'est ce que j'ai essayé de faire dans mon livre, à la question du droit de mourir. Il me semble que Kant aurait pu très bien répondre « non, pas du tout », même si j'affirme que jamais, en aucune circonstance, il ne sera moral de mentir, je vais quand même mentir. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une circonstance exceptionnelle d'un intérêt supérieur qui, non pas m'autoriserait, non pas rendrait moral le mensonge, mais ferait qu'en quelque sorte, je décide en mon âme et conscience de transgresser un interdit fondamental qui doit demeurer comme tel au motif que justement il y a un intérêt supérieur qui est en jeu.
Mais donc du coup vous êtes plutôt du côté de Kant ou du côté de Constant, puisque d'un côté vous reconnaissez l'universalité de la maxime et de l'autre vous acceptez les exceptions.
Alors je suis profondément kantien, c'est-à-dire que pour moi l'universalisme de la maxime doit rester. Ceci dit, il se pourrait qu'il y ait, je ne s'en suis même pas certain, en 10 ou 15 ans de médecine palliative, je crois que j'ai vu réellement deux cas véritables d'euthanasie, il se pourrait qu'il y ait des circonstances tellement exceptionnelles qu'elles nous amènent éventuellement à franchir un interdit, mais c'est là où je reste kantien, qui comme tel doit rester de l'ordre de la transgression d'un interdit. C'est-à-dire que si je reprends ma position par rapport au droit, qui doit entraîner une conséquence juridique, judiciaire en tout cas, pour le donneur d'ordre. Il me semble que le pire des cadeaux qu'on pourrait faire aux médecins, c'est de dire, pour des raisons médicales, nous imaginons qu'il y a des circonstances qui soient tellement exceptionnelles et compréhensibles que finalement on dépénalise de fait l'euthanasie. Moi je pense que dans les circonstances où la question de l'euthanasie peut ou se poser et amener à une éventuelle transgression, il faut la préciser, il faut la codifier, il faut l'encadrer, il faut que ça soit une décision d'équipe, etc. Il faut nécessairement, c'est ce que je maintiens et que j'affirme fermement, que le médecin qui aura donné l'ordre rende des comptes à la justice. Pour une raison aussi toute simple, c'est que si on fait tomber cet interdit fondamental-là, il n'y a plus de limite. Et il me semble que des dangers, c'est ce que j'ai dit dans mon livre, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer, de réels dangers menacent la société, à savoir cette grande question qui est celle du grand âge, qu'interrogeait déjà Georges Canguilhem dans le normal et le pathologique. C'est-à-dire que demain, le grand fléau, ce n'est pas nécessairement le cancer pour les pays occidentaux, ce n'est pas nécessairement le sida pour les pays occidentaux, c'est la question du grand âge. Donc c'est le grand âge qui est pour moi, comme ça va coûter très cher, la porte ouverte à tous les excès si on légalise, c'est-à-dire si on fait tomber l'interdit fondamental de l'euthanasie.
Mais en réalité, cette question de la légalisation ou non de l'euthanasie, et je le comprends en vous écoutant et à la lecture de votre livre, ça paraît très clair aussi, est au cœur du problème même qu'il y a à l'exercice du métier même de médecin, puisque le médecin, enfin, cela pose la question du statut de la loi en médecine. Un médecin a toujours affaire à un cas particulier, à un individu. Or, la loi s'adresse au collectif par définition. Donc, on retrouve là l'antagonisme du début, mais qui doit être vécu sans doute au quotidien par un médecin. Comment prendre une décision collective au nom d'un seul individu?
Alors, je renvoie toujours à Canguilhem et je crois qu'effectivement, la question du jeu et du nous est une question autant épistémologique qu'éthique. La médecine, c'est l'articulation difficile, voire impossible au quotidien, de cette nécessité d'avoir des connaissances, du nous, des lois, des contraintes de ce type, du savoir et du savoir-faire, mais en même temps, c'est un exercice pratique et toujours dans un colloque singulier soignant-soigné.
Et d'ailleurs, cette double dimension théorique-pratique, vous la tenez très bien dans votre livre, un nom qui s'appelle « D'un prétendu droit de mourir par humanité, l'euthanasie en question », et on trouve ça chez François Bourin, éditeur. Merci beaucoup Bernard-Marie Dupont d'être venu en parler aujourd'hui.
Adèle, dans votre bibliothèque?
Eh bien, dans un registre bien différent. Les éditions textuelles publient en ce moment un petit livre gris et rouge dont l'auteur est Philippe Corcuff, qui est entre autres le fondateur des universités populaires de Lyon et de Nîmes, et qui nous propose ce petit livre intitulé « Béaba philosophique de la politique » pour ceux qui ne sont ni énarques, ni politiciens, ni patrons, ni journalistes. Ce livre vient rejoindre la famille désormais nombreuse, des anti-manuels, puisqu'il se présente comme un anti-manuel de philosophie politique à destination des citoyens ordinaires, l'expression est de l'auteur, en rompant avec les langues de bois des élites et en empruntant les chemins de traverse que sont les chansons, le cinéma et les romans. Alors de l'éloge des cerveaux lents et des cerfs-volants, le but est de passer par la médiation des cultures ordinaires afin d'introduire des questionnements philosophiques en politique. Sous l'aiguillon de la critique sociale, on trouve ainsi une analyse de l'anticapitalisme de la fragilité, de Spider-Man à Avatar, ou encore des individus gauche entre pessimisme et optimisme du polar à Fabrice Luchini. L'appel à une critique sociale renouvelée est lancé, et pour cela il faut se défaire de la magie des essences et se tourner vers d'autres logiciels politiques alternatifs. Le message est clair, et donc le livre s'appelle « Béaba philosophique de la politique » par Philippe Gorcuff, et on trouve ça aux éditions textuelles.
Voilà, merci à tous. Les nouveaux chemins de la connaissance, c'est fini pour cette semaine. Tous mes remerciements à tous les invités de cette semaine sur la guerre. Valérie Niquet, Jean-Vincent Olindre, Ninon Granger, Monique Cantos-Perbert, Philippe Chardin et bien sûr Michael Walzer en duplex depuis New York. Cette semaine, vous pourrez la retrouver tout entière sur le site des Nouveaux Chemins où vous attendent téléchargement, écoute en ligne ainsi qu'une bibliographie polémologique. Semaine prochaine, nous passerons de la guerre au chaos puisque nous avons décidé pour vous de mêler des sujets aussi différents et passionnants les uns que les autres. Citizen Kane, Brassens et La Fontaine, anthropologie et ontologie chez Aristote et lundi, pour commencer, et oui, la vie d'Andy Warhol, rien que ça. 10h59 et des poussières sur France Culture. Dans un instant, Culture Monde, Florian Delorme.